Bon, en termes politiques, je crois que les quatre principales priorités du Parti démocrate chrétien, ça reste la famille. Ce pays fait trop peu d'enfants. Il y a un véritable problème avec le vieillissement de la population. Donc la famille reste notre port d'attache. On a la priorité de la politique économique. Pour continuer à avoir une économie florissante dans ce pays, on se tire de la crise économique comme autant qu'un autre pays de la planète. Donc je crois que là, il y a une priorité essentielle pour donner des perspectives en termes d'emploi à la population suisse. Et puis les deux autres priorités, eh bien, c'est la question des assurances sociales, de la sécurité, je dirais, sur le plan de la sécurité sociale et aussi de la sécurité au quotidien, ce sentiment d'insécurité qui croît dans la population alors qu'on reste un des pays les plus sûrs du monde, mais je crois qu'il faut s'en préoccuper. Et puis pour terminer, la question de l'environnement. On dit toujours que le Parti démocrate chrétien a inscrit ça dans son programme depuis quelques années. On a fait beaucoup dans ce domaine, mais dans le fond, depuis 2000 ans, je crois qu'on se bat pour la création et un certain nombre de valeurs. Et je pense que de léguer à ses enfants ou à ses petits-enfants un environnement dans lequel il fait bon vivre, ça reste quelque chose d'essentiel et on veut encore s'engager pour ça.
Vous avez dit tout à l'heure, nous engager pour la famille, ça c'est quand même un leitmotiv que vous avez depuis très longtemps. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire qui a été fait au cours de la dernière législature et qu'est-ce qui reste à faire maintenant au cours de la prochaine?
Point de vue familial, je pense que les choses qu'on a achevées d'essentiel dans cette législature, c'est la question de la fiscalité. Les familles avec des enfants payent moins d'impôts en plus de pouvoir d'achat. On a par exemple aussi amélioré leur pouvoir d'achat en autorisant les importations parallèles. Avant, pour importer quelque chose qui est protégé par un brevet, vous deviez passer par un importateur exclusif qui se prenait une rente et qui s'en mettait plein les poches. Aujourd'hui, on peut faire des importations parallèles et ça a évidemment donné un petit peu de souffle aux familles qui retrouvent un peu plus d'argent dans leur porte-monnaie. Je pense que les familles ont besoin de trois choses. Elles ont besoin de temps, d'argent et d'infrastructures. Si vous avez des enfants et que vous avez à un moment donné un enfant qui est malade ou une période de formation ou d'examen, il faut pouvoir avoir du temps. Donc la compatibilité avec la vie professionnelle reste quelque chose d'important. Là, il faut peut-être réfléchir à une notion de temps parental. Là, il y a des modèles qui sont à développer. Il y a la question de l'argent, donc du pouvoir d'achat des familles dans le domaine de la fiscalité, je pense, et dans des taxes, notamment de la parafiscalité. Je pense que les familles doivent être aussi mieux traitées. Et puis, quand on parle d'infrastructure, on parle notamment des questions de crèche. J'estime que ce n'est pas l'État qui doit choisir comment une famille s'occupe de ses enfants, mais qu'il doit y avoir en suffisance des places de crèche afin de pouvoir combiner l'activité professionnelle et l'activité familiale. Dans les idées concrètes qui seront développées, il y a par exemple la question de la défiscalisation des allocations familiales. Il n'est pas acceptable que l'État donne d'une main de l'argent qu'elle reprend de l'autre sous forme d'impôts. Il y a la question aussi de la discrimination des couples mariés par rapport à la fiscalité aux assurances sociales qui seront des thèmes qu'on va développer aussi.
On a beaucoup parlé de coupes budgétaires au cours des dernières années, d'économie. Est-ce que la Confédération devrait encore réduire certaines dépenses? Et puis, à contrario, est-ce qu'il y a certains domaines où elle devrait maintenant investir plus?
Bon, il n'y a pas de solution miracle. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a un domaine de la Confédération dans lequel on pourrait dépenser beaucoup moins d'argent, parce que ça se saurait si ça existait. Je pense par contre qu'il y a une nécessité d'efficacité dans le cadre des dépenses de la Confédération et qu'il y a dans chaque domaine des dépenses qu'on pourrait éviter. Je pense notamment à la mesure d'économie que j'avais proposée à l'époque, qui avait soulevé beaucoup de réactions, et on avait dit que sur les biens et services de la Confédération, ce que la Confédération achète, on pouvait économiser 150 millions. Alors on m'a dit, ça touche tout le monde, ça va être absolument catastrophique, les conséquences sont absolument inimaginables. Et aujourd'hui, on a économisé 150 millions dans ce domaine sans que personne ne s'en aperçoive. C'est des taille-crayons, ce sont des stylos, c'est du papier, ce sont des mandats de consultants qui font alors foison dans toute l'administration fédérale. Dans ce genre de domaine, je pense qu'il y a tout à fait des économies qu'on pourra encore faire. Les domaines où on doit dépenser plus, les domaines essentiels pour l'avenir du pays, je continue de croire que la question de la formation reste un investissement absolument essentiel. Là, il n'est pas question de transformer tous les jeunes Suisses en universitaires, mais enfin, la formation professionnelle, les hautes écoles, c'est l'avenir du pays. On a un pays sans matières premières, donc on a un pays avec de la matière grise. Et je pense que dans un domaine comme ça, si la Suisse veut rester au top, il faudra continuer d'investir. Et puis l'autre domaine dans lequel il y a des lacunes importante. On a de très bonnes infrastructures en Suisse, mais par rapport au développement de la population, il y a 100 000 personnes supplémentaires dans le pays pratiquement chaque année. Et je pense que dans un contexte comme ça, il manque des milliards pour la route et pour le rail. Moritz Leuenberger, qui était le ministre des Transports à une époque où des infrastructures a souvent nié les problèmes. Et je pense que dans ce domaine-là, si on veut une Suisse qui reste très performante ces prochaines décennies, il faudra investir. Et là, on n'a pas encore trouvé toutes les solutions pour le financement.
Au niveau de l'Union européenne, quand même un dossier qui intéresse beaucoup les Suisses de l'étranger, on dirait qu'on est arrivé un petit peu en bout de course avec les relations bilatérales. Quelle voie il faudrait suivre selon vous maintenant ?
Ben, on nous dit depuis des années qu'on arrive en bout de course et je pense qu'il faut arrêter de paniquer chaque fois qu'un fonctionnaire à Bruxelles tousse. La voie bilatérale est celle qui est adaptée à la Suisse, qui est pratiquement faite sur mesure. Je ne veux pas et mon parti ne veut pas adhérer à l'Union européenne. Par contre, la voie bilatérale, je pense qu'on doit la poursuivre. Il y a d'autres partis qui veulent maintenant remettre en question et abandonner la voie bilatérale. Et je crois qu'il faut renvoyer aujourd'hui dos à dos la gauche qui veut adhérer à tout prix à l'Union européenne, ce qui est à notre avis pas raisonnable. Et de l'autre côté, ceux qui veulent même remettre en question et mettre fin aux accords bilatéraux, ce qui aurait des conséquences absolument catastrophiques pour l'économie suisse et pour l'ensemble du pays. Donc je pense qu'il faut être raisonnable et que la voie bilatérale, tant qu'elle sera à l'avantage de la Suisse et à l'avantage de l'Union européenne, eh bien cette voie fait sens. Ce sera de plus en plus chaotique, de plus en plus difficile, mais je pense qu'on doit poursuivre sur cette voie pour l'instant.
Il y a un dossier sur lequel il faudra se positionner au cours de la prochaine législature, c'est le dossier énergétique. Les centrales nucléaires arrivent en fin de vie actuellement en Suisse, d'où la question, faut-il en construire de nouvelles ou non ? Comment se positionne le PDC là-dessus ?
Je crois que ce qui s'est passé au Japon ces derniers jours va complètement bouleverser la politique énergétique de ce pays. Le PDC s'est beaucoup engagé ces dernières années pour les énergies renouvelables, pour l'assainissement des bâtiments, et je crois que dans ce domaine-là, on va devoir faire encore des efforts supplémentaires parce qu'il faudra imaginer toutes les possibilités d'un avenir du pays sans le nucléaire. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire à la place ? Est-ce que ça va être le retour des centrales à gaz ? Est-ce que ça va être beaucoup plus d'énergie renouvelable ? Évidemment que c'est une voie que je vais soutenir. Et puis aussi le développement, par exemple, de l'hydroélectricité où le potentiel est encore assez important. Et là, je crois que dans ces domaines-là, on va devoir faire des réflexions qui vont complètement bouleverser le système ces prochaines années. Je ne crois pas qu'on puisse imaginer l'avenir de ce pays avec le nucléaire. On l'a déjà dit avant Fukushima et je pense qu'on va devoir aller plus vite, on va devoir prendre des mesures beaucoup plus drastiques pour développer les énergies renouvelables, pour utiliser de manière beaucoup plus intelligente l'énergie électrique qui est à disposition et puis pour concevoir quelque chose pour remplacer le 37% de la source énergétique aujourd'hui que représente le nucléaire pour l'approvisionnement en électricité.
À quoi devrait correspondre la mission ? Et puis, autre question donc, qui en découle, les effectifs de l'armée de demain ?
L'armée reste un élément très très important, central de notre sécurité. C'est une armée qui correspond à la menace d'aujourd'hui. Quelle est la menace ? La menace, c'est la menace terroriste. C'est la menace qu'ont des infrastructures centrales du pays. C'est la menace de catastrophes nucléaires ou de conséquences du réchauffement climatique. Et c'est dans ce genre de domaine, je crois, ou de la cybercriminalité, c'est dans ce genre de domaine qu'on doit progresser. C'est par rapport à ces vraies menaces que la mission de l'armée doit être conçue. Et je pense qu'une armée qui ne coûte pas plus cher qu'aujourd'hui, environ 4 milliards, avec 80 000 hommes, mais bien adaptée, efficace et bien équipée, correspond vraiment aux besoins du pays. Si on veut la paix en Suisse, si on veut la sécurité en Suisse, c'est une armée qui doit aussi pouvoir s'engager à l'étranger parce que lorsqu'on s'engage à la stabilisation du continent européen, en restant un pays neutre, en restant un pays indépendant, je pense qu'on participe aussi à la sécurité de notre propre pays. On évite toutes sortes de problèmes et de misères. Et je pense que l'armée doit aussi dans ce contexte-là jouer son rôle.
Comment est-ce que votre parti se positionne face à l'immigration en général et au thème plus particulier de l'intégration ?
L'immigration pour la Suisse est essentielle. L'histoire du succès de la Suisse, on est dans une bonne situation avec peu de chômage, avec un niveau d'endettement bas. On n'a pas endetté les 5 prochaines générations comme l'ont fait d'autres pays lors de la crise économique. Eh bien, je pense que dans ce contexte-là, on doit dire qu'on a besoin de la population étrangère. Et dans un pays qui se fait de moins en moins d'enfants, dans un pays qui vieillit, je pense que l'immigration restera une réalité ces prochaines années. Ça veut dire qu'on doit être plus sévère en matière d'immigration, qu'on doit fixer des critères clairs et qu'on doit oser dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Par contre, cette politique qui met tous les étrangers dans le même sac, qui les traite tous d'étrangers criminels, c'est une politique qui fait du mal à la Suisse parce que la Suisse a toujours construit sa prospérité aussi grâce aux étrangers. On doit beaucoup à cette population qui est venue d'ailleurs, qui nous a apporté ses idées, son savoir-faire, son immense volonté, et qu'aussi ces prochaines années, ça restera une réalité. Mais on doit être sévère, on doit imposer un certain nombre de règles, et lorsque ces règles ne sont pas respectées, il faut en tirer les enseignements. Il y a des personnes qui n'ont rien à faire dans ce pays.
Qu'est-ce que vous auriez comme proposition au Parti démocrate chrétien pour améliorer la politique que la Confédération a envers la 5e Suisse et ses soucis particuliers?
Je crois qu'on va mettre un accent particulier sur la 5e Suisse dans la campagne électorale. D'abord en essayant d'intéresser des membres de la 5e Suisse, des personnes qui sont établies à l'étranger pour être candidats sur des listes démocrates chrétiens. Je n'exclus pas de faire des listes spécifiques, particulières pour la 5e Suisse. Il y a un certain nombre de cantons où nous avons intérêt à cela, où il y a une sensibilité qui est propre, et je pense que ce serait véritablement une occasion d'échanger sur les attentes de la 5e Suisse par rapport à la politique. On sent ces personnalités très prêtes à s'engager, très proches de l'identité de leur pays, très soucieuses aussi de son avenir, et j'espère qu'on puisse convaincre un certain nombre de personnes à participer à ces élections.
Mais le problème, il est souvent le même, sans circonscription propre, ils n'ont pratiquement aucune chance d'être élus, vu n'étant pas sur place, ce n'est pas les mêmes conditions que les candidats locaux.
Bon, en France, vous avez des institutions qui sont prévues à cet effet, où les Français de l'étranger ont droit de fait à un siège. Là, il faudrait certainement réfléchir peut-être une fois à une modification institutionnelle ou constitutionnelle pour permettre ce genre de représentation ou de participation. Je pense que pour l'instant, il faut faire avec des institutions qui sont en place et que la possibilité qu'on a de faire participer des Suisses de l'étranger à des listes électorales au Conseil national me paraît une solution qui est intéressante pour échanger sur les attentes de cette population.